Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La célébration de la fête du Maolid, le président de la Fondation de l'Islam de France, Khaled Bencher, reviendra dans votre journal sur l'importance de cette fête et sur sa signification. À l'occasion de cette fête, un événement symbolique en Irak, des chants religieux ont retenti hier soir dans l'emblématique mosquée Al-Nouri de Mossoul. Une deuxième nuit de sit-in au Soudan, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés pour demander un gouvernement de militaires. Cela faisait hier 2 ans, le début d'un mouvement de protestation éclatait au Liban pour dénoncer la corruption des dirigeants. La journaliste Maya Kadra nous rappellera la genèse de cette révolution. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient était le week-end dernier Frédéric Potier pour son livre Pierre Mendès ou La foi démocratique. Il est notamment revenu sur le rôle joué par l'ancien président du Conseil dans le processus d'indépendance de la Tunisie. Extrait de votre édition. La fête du Maolid, elle célèbre la naissance du prophète Mahomet, une célébration au 12e jour du 3e mois du calendrier islamique. Sur l'importance de cette fête et sur sa signification, entretien avec le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Khaled Bencher.
La célébration de la naissance du prophète comme une fête de la nativité islamique est récente dans l'histoire de la tradition religieuse islamique, récente en ce sens que elle ne date pas ni du temps de l'apostolat du prophète Mohammed, ni dans l'immédiat temps après sa mort. Elle n'est venue petit à petit qu'avec l'expansion de l'Empire et surtout la rencontre avec les communautés chrétiennes, ce que d'aucuns appellent une forme de christianisation de la pratique et des coutumes de la tradition religieuse islamique. D'un côté, on a les chrétiens, toutes confessions confondues, qui donnent une place centrale à Jésus et à sa naissance. Les musulmans, de par leurs contacts, ont agi aussi de même. Historiquement, les choses se sont présentées plutôt comme ça. Mais en réalité, ce sont davantage les Fatimides, la dynastie Fatimide, et surtout quand ils se sont déplacés de la Tunisie actuelle en Égypte, ce sont eux qui ont fondé la capitale, le Caire. C'est là où il y a eu une sorte de solennité et tout un cérémonial pour célébrer la naissance du prophète. On rapporte qu'un sultan, le sultan d'Erbil, a aussi institué cette célébration, et tout comme sous les Mérinides particulièrement, une dynastie dont la capitale est Fès, au Maroc actuel, ça a pris, ces célébrations ont pris une importance considérable. Petit à petit, cela s'est étendu dans toutes les contrées de l'Empire ou des empires. Jusqu'à des dates récentes, avec la salafisation des esprits, la wahhabisation, qui veut revenir sur cette pratique, arguant du fait qu'elle n'a jamais été instituée ni du temps du prophète, et ça c'est normal, parce qu'il n'a jamais dit « je mourrai et vous célébrez après moi ma date de naissance », et que ses compagnons aussi ne l'ont pas fait. Alors, indépendamment de tout cela, ça devient un temps fort de la liturgie islamique. Les musulmans de par le monde revivent ce que les mystiques appellent la lumière mohammedienne, essaye, dans la mesure du possible, d'incarner tout son enseignement, surtout un enseignement méconnu de nos jours, qui est celui de la miséricorde. Lui-même dit « Je ne suis venu au monde où je n'ai été suscité que pour parfaire la noblesse de la vertu », et le Coran dit de lui qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde aux univers, donc au pluriel, au duel ou au pluriel. Donc c'est c'est un temps fort de recueillement, de réflexion, d'intériorité, de prière, mais surtout de méditation et de réflexion sur le comportement prophétique lui-même pour donner la meilleure image et pour que les musulmans soient les dignes ambassadeurs de son enseignement et de sa façon d'être, à un temps où il est décrié par certains, parmi les non-musulmans. Donc c'est l'occasion de présenter une biographie et un enseignement véritable. Et puis, c'est aussi pour s'ouvrir à l'altérité confessionnelle, expliquer à d'autres adeptes, d'autres traditions religieuses, dans le dialogue interreligieux, qu'en réactualisant l'enseignement des fondateurs de ces grandes religions que nous connaissons, c'est aussi une manière de contribuer à la solidarité, à la fraternité et à la paix civile.
Vous mettez en lumière l'importance de cette fête dans le domaine du dialogue interreligieux, c'est un élément très important.
Oui, je pense qu'à chaque fois qu'on peut mettre à profit un temps fort d'une pratique religieuse ou d'un temps liturgique, de quelque tradition que ce soit, pour s'ouvrir à autrui, pour s'offrir afin d'accueillir, ce sont toujours des temps bénéfiques qu'il faut savoir saisir et dans un esprit au-delà des mots galvaudés de fraternité universelle.
Et comment cette fête est-elle célébrée ?
Alors, ça dépend aussi des régions. Il y a, par exemple, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, et le gros de la composante islamique de la nation française est constitué de ces régions-là. Il y a beaucoup de lumière, des bougies un peu partout dans toutes les pièces de l'appartement ou de la maison, des cadeaux pour les enfants. On peut pétarader avec des pétards ou des choses comme ça dans la mesure du possible. Il ne faut pas incommoder le voisinage, bien entendu. Il y a des chants, il y a des prières et surtout des causeries religieuses mettant en exergue l'enseignement prophétique qui, encore une fois, est un enseignement d'amour, de bonté et de miséricorde.
Vous présidez, Raleb Benchar, la Fondation de l'Islam de France, qui est une institution culturelle et non cultuelle. Quel message souhaitez-vous adresser à l'occasion de cette fête ?
Ce sera un message d'amitié et de respect pour tous nos compatriotes et tous nos concitoyens, pour les musulmans en France et de par le monde. C'est de les enjoindre et de les adjurer à être, encore une fois, les meilleurs ambassadeurs de leur propre tradition religieuse, de laisser place à plus d'ouverture, à plus d'amour et de tendresse dans leur cœur, et laisser place surtout à plus de connaissances et de culture. La réponse culturelle, la réponse éducative, l'émotion esthétique, l'intériorité, une spiritualité vivante sont autant d'antidotes au fanatisme et à l'extrémisme.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Benchar. À l'occasion de la fête de Maolid, cet événement en Irak, des chants religieux ont retenti hier soir dans l'emblématique mosquée Al-Nouri de Mossoul, le premier événement de ce type sur ce site qui avait été ravagé par les terroristes du groupe État islamique. La mosquée et son minaret du XIIe siècle avaient été détruits en juin 2017. La mosquée est en cours de restauration par l'UNESCO. Les travaux doivent être terminés d'ici la fin 2023. Première discussion entre pouvoir et opposition sur la constitution en Syrie. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie affirme depuis Genève que les coprésidents du gouvernement et de l'opposition du comité constitutionnel syrien se sont mis d'accord pour lancer le processus de rédaction d'une nouvelle constitution. Le comité est composé de 45 représentants du gouvernement syrien, de l'opposition et de la société civile et il a pour mandat d'élaborer une nouvelle loi fondamentale menant à des élections supervisées par l'ONU. Cela faisait hier 2 ans le début d'un mouvement de protestation au Liban pour dénoncer la corruption des dirigeants. La journaliste Maya Kadra nous rappelle la genèse de cette révolution. Maya Kadra.
Ce mouvement de la société civile est issu d'un sentiment de frustration chez les peuples libanais depuis la fin de la guerre, parce que depuis la fin de la guerre, il y a eu un système politique qui a sanctuarisé en quelque sorte la corruption, aussi bien que les prévarications de tous les hommes politiques de la classe politique qui a gouverné entre 90 et qui gouverne toujours jusqu'à aujourd'hui. Et l'élément déclencheur de ces grandes mobilisations historiques, je dirais, et les premiers en leur genre depuis mars 2005, c'est-à-dire la révolution des cèdres, l'élément déclencheur de ces mobilisations, c'était une taxe WhatsApp. Et donc au Liban, où il y a une cherté de vie indécente, je dirais, avec un salaire moyen qui est médiocre, le gouvernement et le ministre Choukair, qui était chargé de la télécommunication, a voulu imposer une taxe sur les appels gratuits qui passent par l'application WhatsApp. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'évidemment, on n'a pas manifesté contre une taxe, on a manifesté contre une classe politique corrompue, on a manifesté aussi contre un système bancaire qui a longtemps protégé les magouilles de la classe politique, on a manifesté contre la cherté de vie, on a manifesté aussi, et ça c'était une aile plus politique dans ces contestations qui sont sociales. À la base, on a manifesté, il y a beaucoup de Libanais qui ont manifesté pour la souveraineté de l'État. Parce qu'au Liban, on a une armée dont on critique parfois l'impuissance. On a des agendas, je dirais, régionaux extérieurs à la souveraineté nationale libanaise qui sont imposés sur le peuple libanais. À ne pas oublier que malgré les résolutions internationales, dont la résolution 1559 qui édicte le désarmement de toutes les milices, il y a toujours des milices armées au Liban, et à la tête de ces milices armées, évidemment le Hezbollah qui a un projet extraterritorial. Donc tout ça a mené à ce qu'on a pu voir et en témoigner le 17 octobre 2019, et j'étais d'ailleurs à Beyrouth à ce moment-là, et j'ai vu qu'il y avait un ras-le-bol total de la part du peuple, et que ce qui était nouveau aussi, c'est que le peuple n'avait plus peur. Et vraiment, je pourrais comparer ça à mars 2005, après l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, l'attentat à la voiture piégé, on a eu une déferlante populaire à la place des martyrs.
La journaliste Maya Kadra, elle a coordonné le numéro spécial consacré au Liban de la revue politique et parlementaire, notre partenaire sur Radio Orient. Maya Kadra répondait à Loïc Barrière. Une deuxième nuit de sit-in au Soudan, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés pour demander un gouvernement de militaires. Les protestataires hostiles au gouvernement Hamdok ont monté des tentes devant le palais présidentiel à Khartoum, là où siègent les autorités militaro-civiles de transition. Pour les partisans d'un gouvernement civil, fer de lance de la révolte populaire qui a mis fin 2019 à 30 ans de dictature du général Omar al-Béchir, ce sit-in est qualifié de coup d'État en devenir dans un pays qui en a déjà connu plusieurs. Un nouveau drame de l'immigration clandestine au large des côtes tunisiennes. 4 personnes sont mortes, 19 sont portées disparues après qu'un bateau qui transportait des candidats à l'exil a chaviré. Les victimes sont de nationalité tunisienne. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient était ce week-end Frédéric Potier pour son livre Pierre Mendès ou la foi démocratique aux éditions Bouquin. Pierre Mendès France est mort il y a tout juste 39 ans, le 18 octobre 1982. Frédéric Potier est revenu notamment sur le rôle joué par l'ancien président du Conseil dans le processus d'indépendance de la Tunisie. Frédéric Potier.
Il jouait un rôle majeur parce que Pierre Mendès France, comme beaucoup de gens de sa génération, je le disais, était au départ très attaché évidemment à l'intégrité de l'Empire français. Et en 53, il dit même que la Tunisie fait partie intégrante du dispositif de sécurité français et que Bizerte a la même valeur que Toulon. Donc c'est quelqu'un qui est aussi vraiment imprégné des idées de son époque, on dirait presque des préjugés de son époque. Mais c'est aussi quelqu'un qui rapidement tisse des liens très étroits avec la Tunisie. Il va aller en 53, parce que Pierre Mendès France est avocat, je ne l'ai pas dit, défendre des nationalistes algériens accusés de manière injuste. Et d'ailleurs, il obtient leur libération au bénéfice du doute. Et ces premiers contacts avec la Tunisie font que en 1954, dans la foulée des accords de Genève sur la paix en Indochine, Pierre Mendès France a un geste très audacieux. Il se rend en Tunisie, il prononce un grand discours qui s'appelle le discours de Carthage, où il accorde, enfin il accorde, où il oui, je crois qu'on peut dire accorde, hein, une forme d'autonomie interne à la Tunisie, ce qui prépare une décolonisation finalement assez progressive avec un transfert de compétences qui est organisé, qui est négocié et qui va aboutir à l'indépendance de la Tunisie quelques années plus tard.
Et vous vous demandez, Frédéric Potier, si le processus avec la Tunisie n'allait pas servir de laboratoire pour d'autres processus comme la décolonisation de l'Algérie. Mais là, évidemment, on est dans la politique fiction.
On est dans la politique fiction, mais Mendès France lui-même le disait un peu, hein, dans plusieurs de ses écrits, il y a la trace très claire où Pierre Mendès France dit que s'il avait pu mener en Algérie comme en Tunisie une approche pragmatique, progressive, en se fondant sur les élites locales, on aurait peut-être épargné à la France des années de déchirure et à l'Algérie aussi d'ailleurs. Donc je pense que ça c'est un des regrets aussi de Pierre Mendès France qui, lorsqu'il est quelques mois au pouvoir en 56, hein, c'est Guy Mollet à l'époque qui est chef du gouvernement, Pierre Mendès France est vice-premier ministre et il n'arrive pas à peser sur la décision de l'exécutif français et on se retrouve dans un engrenage que vos auditeurs connaissent bien. Et donc cette voie est très singulière, cette voie de Mendès France qui d'ailleurs très tôt après reconnaît qu'il faut négocier l'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, il trouve que le général de Gaulle traîne un peu d'ailleurs. Donc là encore c'est des pages à redécouvrir parce que je pense qu'elles disent aussi qu'il y a eu des gens, il y a eu des personnalités politiques qui ont voulu aussi faire évoluer ce modèle colonial qui lui semblait complètement injuste et antidémocratique.
Frédéric Potier, ex-délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il est l'auteur de Pierre Mendès sous la foi démocratique aux éditions Bouquin. Il était l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, présentée par Loïc Barrière et l'émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com. La police municipale fait ses débuts officiels à Paris avec 154 agents. Elle en comptera 3400 en 2026 et ne sera pas dotée d'armes létales, ce que regrette l'opposition. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Béatrice de Lavalette, adjointe au maire de Suresnes, une émission présentée par Loïc Barrière. Permettez-moi au nom de toute l'équipe de Radio Orient de vous souhaiter une très bonne fête du Maolid. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe présenté par Roger Coury.